chemin de mémoire. Une émission hebdomadaire de Qasmim Hend, réalisée par Zubir Ketani.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le fabuleux jardin d'essai du Hama, dont nous tenterons de vous raconter la fabuleuse histoire.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cohère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre, comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver.
Le jardin d'essai du Hama, créé 2 ans seulement après la chute d'Alger, est une des curiosités de la capitale qui ne manquait pas, quand il était encore ouvert, d'impressionner des visiteurs de la capitale. À son insu, le voyageur arrivant par la mer découvre le vaste espace de verdure sombre s'intercalant entre les quartiers du Ruisseau et de Belouizdad, et se demande si toute cette masse verte est effectivement un jardin. Situé au fond de la baie d'Alger dans sa partie sud, le jardin d'essai du Hama, véritable poumon d'Alger, étend ses 62 hectares en amphithéâtre, depuis les abords immédiats du rivage jusqu'au ravin de la femme sauvage, en escaladant la colline du parc de la Victoire, sur lequel se dresse depuis le début des années 80, majestueux, le Maqam Shahi. Les touristes les plus vagabonds qui fréquentèrent notre pays sont toujours étonnés par sa flore tropicale. Le jeu incomparable des couleurs où les verts les plus nuancés viennent s'harmoniser avec les bleus du ciel et de la mer, où les parfums se mêlent aux coloris des floraisons qui s'échelonnent tout au cours des quatre saisons en un perpétuel printemps. Le jardin d'essai bénéficie d'une perspective limitée seulement par l'horizon absolu où l'infini transporte l'esprit vers le reste du monde, celui que l'on a déjà admiré et celui que l'on voudrait connaître. Sa partie basse se confond avec cette zone autrefois marécageuse qui fut le témoin du campement temporaire de la soldatesque de Charles Quint quand il voulut prendre El Jazeer, El Mahrousa, tandis que sa partie haute voisine avec le versant où Cervantes avait cru trouver un refuge sûr pour échapper au Dey d'Alger. Les Algérois connaissent et apprécient le jardin qui a vu leurs ébats d'enfants. Adolescents, ils sont venus y rêver, échanger confidences et petits secrets de la sève qui monte. Adultes, ils reviennent goûter le calme reposant des ombrages, accompagner leur jeune famille, puis, plus tard, grand-père, y revivre tendrement et avec nostalgie leurs souvenirs. D'autres moins nombreux, mais dispersés au hasard des carrières, savent qu'il est un véritable musée de la plante. Ils sont venus étudiants reconnaître les caractères d'espèces rares dont l'habitat va des pays tempérés aux zones tropicales des 5 continents. C'est que le jardin d'essai est à la fois pépinière, ne fut-il pas à l'origine dénommé pépinière centrale du gouvernement. Collection, son deuxième qualificatif officiel fut jardin d'acclimatation, centre de recherche, d'études et de vulgarisation, et enfin jardin public. Tout ceci et cela explique bien le nom qui lui est resté et qui l'a popularisé. Les botanistes du monde entier le considèrent comme un véritable jardin d'Éden, un véritable paradis. L'initiative de la création du jardin d'essai revient en fait à l'autorité militaire coloniale qui décida dès 1831 d'assainir quelques hectares de terrain marécageux situés au pied de la colline des Arcades en vue de les transformer en sol agricole et d'y poursuivre des essais culturaux comparables à ceux que le général Lacroutz avait entrepris dès 1830 à l'emplacement actuel de l'hôpital Maillot à Babelouette. La désignation de l'endroit sous le terme de Hama, qui veut dire « la fièvre » en arabe, traduisait explicitement son état d'insalubrité. Le nom de ce lieu-dit devait survivre à sa cause. L'acte de naissance proprement dit du jardin d'essai est signé sous l'administration du duc de Rovigo, alors général en chef de l'armée d'Afrique, en décembre 1832 par le général Avisard, gouverneur général par intérim sur proposition de l'intendant civil Gentil de Bussy. Les motifs de la création de ce jardin qui devait en faire à la fois une ferme modèle et un jardin d'essai étaient à l'époque de propager par un établissement que le gouvernement seul peut soutenir la culture des végétaux les plus utiles et auxquels conviennent le sol et le climat de l'Afrique, nouvelle possession française, de répandre dans le bassin méditerranéen les espèces déjà cultivées en Algérie et d'introduire enfin les espèces et variétés originaires de tous les points du globe susceptibles d'accroître les cultures algériennes. Au cours de la période décennale allant de 1832 à 1842, les deux premiers directeurs, le lieutenant de vaisseau Barnier puis le commandant de génie Bernard, vont s'appliquer à suivre intégralement le programme initial prévu. Leur activité s'exerce d'abord sur 5 hectares situés au-delà de l'emplacement actuel du jardin d'essai du côté de Hussein Dey, à peu près à l'endroit où se dressait l'usine de l'électricité et gaz d'Algérie, qui a été plastifiée le 1er novembre 1954. Cette superficie se révéla insuffisante. En 1837, elle est augmentée de 18 hectares grâce à l'acquisition par les domaines de plusieurs terrains plus ou moins bien cultivés, situés sous l'antique fontaine des Platanes, en face du stade Al-Anasr d'aujourd'hui. L'établissement du jardin d'essai devint alors essentiellement un fournisseur de plants, ce qui lui vaut d'être appelé pépinière centrale du gouvernement. Titre qu'il conservera jusqu'au 13 avril 1861 où, de nouveau débaptisé, il prendra l'appellation plus flatteuse de jardin d'acclimatation. Cependant, le terme de jardin d'essai demeurera attaché à la parcelle de 5 hectares jusqu'à ce qu'elle soit échangée avec une enclave de même superficie englobée par les nouveaux terrains acquis. Une nouvelle organisation est apportée à la production des plants fruitiers ou forestiers dès 1842. Les possibilités de livraison de la seule pépinière du gouvernement ne pouvaient plus couvrir les demandes de l'autorité militaire, des pouvoirs publics et des colons qui commençaient à arriver en masse et qui tous étaient soumis à l'obligation de planter des arbres. En 1867, on dénombre déjà 8214 espèces et variétés. On ne peut dresser la liste complète des arbres d'alignement et des essences fruitières exotiques introduites pendant cette période. Par contre, les plantes industrielles font l'objet de nombreux essais. Voici un aperçu des principales variétés. Il y avait des plantes tinctoriales, des plantes textiles, oléagineuses, alcooligènes, des plantes à parfum et des plantes à produits cireux ou gomme. Vient s'y ajouter la longue énumération des plantes médicinales et de celles d'ornement originaires de tous les points du globe. Le célèbre botaniste français Martins pouvait écrire lors de sa visite en 1862 à ce jardin. La France possède en ce lieu le plus beau jardin botanique des zones tempérées, le seul qu'elle puisse opposer aux fabuleux jardins de Calcutta et de Batavia. Au cours de la période qui s'étale de 1842 à 1867, le jardin d'essai du Hama manifesta son activité dans tous les domaines de l'agriculture et de l'horticulture et en même temps devenait un véritable jardin botanique de renommée mondiale. Les services qu'il rendit à l'économie coloniale furent immenses. Il livra, d'après certaines statistiques, près de 3 millions d'arbres, 500 000 plants de végétaux herbacés, 8 000 kilos de graines d'essence forestière, 5 000 kilos de graines potagères, 280 kilos de semences de plantes d'ornement, 9 000 kilos de graines de plantes industrielles et enfin 80 000 greffons et autres boutures. Il fit également connaître le mandarinier et participa à l'embellissement des villes et des routes. Il accumula de nombreuses observations et distinctions. Il fit, en son temps, œuvre utile pour la seule économie coloniale. C'est à 1900, au début du siècle dernier, que remonte l'origine du parc zoologique du jardin d'essai du Hama. Le jardin, en effet, était à l'époque affermé à la compagnie algérienne qui avait estimé opportun de laisser s'installer divers particuliers, privés comme on dirait aujourd'hui. Parmi eux, M. Dang, entre 1875 et 1940, eut l'heureuse idée d'un parc zoologique. La superficie d'environ un hectare qu'il occupe à l'entrée nord du jardin face à la mer lui a permis d'installer des cages et volières en ciment armé, agrémentées de rocailles et de faux bois rustiques. Les nombreuses allées du parc zoologique sont recouvertes de pergolas et avec le temps les fleurs qui avaient été plantées ont pris une vaste envergure, recouvrant de leur ombrage tutélaire une bonne partie des installations. Commencez avec une paire d'autruches, un dromadaire, un sanglier et quelques singes. Parc zoologique du jardin du Hama s'est considérablement étoffé au cours des années. C'est vers 1930 que la plupart des aménagements actuels furent établis. Une cascade et des bassins abritent toute une population de poissons rouges et d'oiseaux aquatiques. Cygnes, pélicans, ibis, flamants roses, fous de bassin, goélands, mouettes, canards mandarins et carolins. Dans des cages solides habitaient les lions, panthères, ours, hyènes, chacals, renards, fennecs, mangoustes, civettes, genettes et enfin guépards. Le 8 novembre 1942, le jardin d'essai est occupé par les troupes alliées qui viennent de débarquer dans le cadre de l'opération Torche et qui installent des dépôts de camions, des ateliers de réparation, des cuisines, des douches, des réfectoires et jusqu'à des porcheries. Les bombardements aériens, et tout particulièrement celui de la nuit du 26 au 27 août 1943, les éclats de défense passive, l'explosion en face du jardin d'essai d'un bateau de munitions le 16 juillet 1943, le manque d'entretien, l'arrêt du système de chauffage des serres ajoutent leurs dégâts dans l'ensemble, constituent une catastrophe pour le jardin. Qu'en est-il aujourd'hui de ce jardin qui est en longue restauration depuis de nombreuses années et dont on ne cesse d'annoncer la réouverture avant de la reporter chaque fois? Aux toutes dernières nouvelles, notre magnifique jardin vieux de 170 ans serait carrément pollué par les rejets trop salés de la nouvelle usine de dessalement du Hama. Les ingénieurs de l'Agence nationale de protection de la nature qui ont participé au récent atelier international sur la revalorisation du jardin tenu à la Bibliothèque nationale en ont la ferme certitude. Les rejets de saumure de la station de dessalement toute proche pourraient constituer une menace de pollution. Ces rejets risquent d'affecter à brève échéance la nappe phréatique du jardin et par là même les plantes dont une grande partie a déjà disparu. Plus de 600 espèces, susurre-t-on, insiste une ingénieure du bureau d'hygiène communal de Belouizdad. Georges El Haddad, directeur général de la station de dessalement d'eau de mer, bat en brèche les affirmations des participants à l'atelier organisé par le mouvement écologique algérien en collaboration avec l'UNESCO, en relevant que des études d'impact sur l'environnement ont été faites avant que la décision d'investir ne soit prise. Loin de ces débats de techniciens plus byzantines qu'algériennes, les Algérois et les amateurs de la nature rêvent de retrouver leur jardin le plus rapidement possible.
Rhinocéros du zoo de Vincennes, sa peau une écorce qui craque à l'île traîne, et comme monstrueux aux paupières de terre glaise, mastodonte de peine, sans espoir de remise, vieillard, un enclos de béton vieux, vieille gloire, un hospice de banlieue, à l'étroit piégé dans le zoo du Vincennes, une baleine noyée dans les eaux de la Seine, quel chagrin. Quel triste monde, où la savane se fane à l'ombre, la fausse montagne du zoo de Vincennes. Dans ce minable safari domestique, où même le roi de la jungle abdique, loin de la savane et des vastes plaines, le lion est un vieux beau abedaine, crinière en calvitie, derrière son grillage. Il ne tourne même plus comme un lion en cage. À quoi bon encore jouer les bêtes féroces quand on ne fait même plus peur aux gosses. Quel chagrin, quel triste monde, où la savane se fane à l'ombre, la fausse montagne du zoo de Vincennes. Sous la volière des rapaces résignés, regarde en l'air sans plus rien espérer. À côté des simagrées, des singes sans gêne, et un petit train que les enfants dédaignent. Un couple d'éléphants piétine d'ennui aux défenses d'ivoire, inutile et terni pour essayer d'atténuer la déprime qui les gagne. Faudrait un Lexomil gros comme un pain de campagne. Quel chagrin, quel triste monde, la savane se fane à l'ombre, la fosse montagne du zoo. Est-ce que chez eux, les enfants d'Afrique vont visiter des parcs zoologiques pour voir enfermer des bêtes qui viennent de loin, des chats, des pigeons, des orodateurs ou des chiens? Le zoo de Vincennes, sinistre fête foraine, arche de Noé, de banlieue parisienne, curieuse ménagerie, triste et funèbre, où les animaux s'emmêlent. Quel chagrin, quel triste monde, où la savane se fane à l'ombre, la fausse montagne du zoo de Vincennes. Dire que j'en suis l'indigène.
À la basse, monsieur Ferrancine.